Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Il est 17h30 à Washington DC, 23h30 à N'Djamena au Tchad. Anastasie Tudiache avec vous. Bienvenue dans cette édition du 1er février. Fin du sommet de l'Union africaine, plusieurs chefs d'État ont adopté une stratégie de sortie de la Cour pénale internationale. Grogne des étudiants au Tchad, Neil Gorsuch est nommé 9e juge de la Cour suprême des États-Unis. L'âge de la sagesse, la voix de l'Amérique célèbre ses 75 ans aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, Nicolas Pineau nous fera le point sur la CAN 2017 avec le duel du jour Burkina-Égypte. Mais tout de suite, c'est le journal. Les dirigeants africains ont donc adopté hier une stratégie appelant à un retrait collectif de la Cour pénale internationale. La décision, juridiquement non contraignante, est intervenue lors d'une réunion à huis clos à la fin du 28e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Jacques Aristide.
Il s'agit de la dernière démonstration d'impatience des chefs d'État africains à l'égard de la CPI qui, selon eux, se concentre trop sur le continent africain. La menace a été régulièrement brandie depuis le premier mandat d'arrêt international émis en 2009 contre le président soudanais Omar el-Béchir. Mais l'éventualité du retrait commun des 34 États africains, signataires du statut de Rome, s'est accentuée avec la procédure qui avait visé le président kényan Uhuru Kenyatta. D'ailleurs, sur proposition de celui-ci, lors du sommet de l'an dernier, une résolution prévoyant l'élaboration d'une feuille de route pour un retrait de la CPI avait été adoptée. L'année dernière encore, l'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi avaient annoncé leur retrait. Confirmant la stratégie entérinée hier à Addis Abeba, une source proche du comité judiciaire de l'UA a indiqué que les pays africains étaient divisés sur la question. La majorité des États ont également voulu que le sens de l'immunité et de l'impunité soit modifié dans le statut de Rome qui a fondé la CPI. L'UA recommande plutôt le renforcement de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. L'ONG Human Rights Watch a réagi en indiquant que la mesure n'établissait aucun calendrier et comprenait peu de recommandations concrètes pour un passage à l'action et de rappeler que plusieurs pays africains dont le Nigeria, le Sénégal et la République du Congo se sont exprimés en faveur de la CPI au cours de ces derniers mois.
Le président de la République de Gambie, Adama Barrow, a dévoilé son gouvernement composé de 18 membres. Dans la foulée, le nouveau pouvoir va bénéficier du dégel des aides de l'Union européenne. Les précisions de Tatiana Mosso.
11 portefeuilles seront confiés à des membres de la coalition de l'opposition qu'il a porté au pouvoir et 7 iront à des technocrates qui vont l'aider à relever les défis. Khalifa Sala, le porte-parole du président gambien, assure que des consultations sont en cours pour pourvoir les 7 postes encore vacants. Mais déjà, les ministères des Finances, des Affaires étrangères, de l'Intérieur ou encore de la Justice ont été confiés à des figures de proue de la coalition. Dans ce contexte, l'Union européenne a annoncé le dégel de 33 millions d'euros d'aide qui avait été bloqué sous le régime de Yahya Jammeh. Cette suspension était directement liée aux violations des droits de l'homme commises sous la présidence de Jammeh. Lors de sa prestation de serment, le président Adama Barrow s'est engagé à faire respecter les lois pour la protection des droits humains.
En Afrique du Sud, une enquête fait scandale, révélant les traitements dégradants pratiqués dans des établissements sanitaires, décrits par des témoins comme des camps de concentration ou des marchés aux bestiaux. Une centaine de malades mentaux y sont morts en 2016, faute de soins adaptés. Les autorités ont promis de poursuivre tous les responsables du drame. Au Zimbabwe, le pasteur Ivan Mawarire, l'un des chefs de file de la fronde contre le président Robert Mugabe, a été arrêté à l'aéroport d'Harare alors qu'il rentrait de plus de 6 mois d'exil. Sa sœur a affirmé que quand il est arrivé à l'aéroport, il a été escorté dans une pièce par 3 hommes avant même de passer par l'immigration ou la douane, ajoutant ne pas avoir davantage d'informations. Au Zimbabwe toujours, le gouvernement a mis en place une nouvelle taxe de 15% sur les produits alimentaires de base dans l'espoir de renflouer ses caisses. Certains craignent que la mesure n'entraîne l'inflation des prix des produits de première nécessité. Accusé par ses détracteurs d'avoir coulé l'économie du pays, le président Mugabe, qui fête ce 21 février ses 91 ans, a été investi par son parti pour briguer un nouveau mandat en 2018. En Tunisie, une information judiciaire a été ouverte contre 12 hauts fonctionnaires pour des cas présumés de corruption. 6 ans après la révolution, les autorités tunisiennes proclament vouloir renforcer la lutte contre la corruption, perçue comme l'un des principaux freins à la relance de l'économie. La Tunisie est 75e du dernier classement de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption dans le monde. Et je vous le disais en titre, c'est un âge honorable. La Voix de l'Amérique a 75 ans aujourd'hui. L'occasion pour la rédaction de VOA Afrique de vous remercier pour votre fidélité et de vous renouveler notre engagement et notre fierté de vous apporter des nouvelles d'Afrique et du monde. Le président sénégalais Macky Sall sur VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique est une radio connue à travers le monde. Et à travers les ondes, les Africains aussi suivent votre radio. Je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire, 75e anniversaire. C'est l'âge de la sagesse. Et je pense que vous avez accumulé un tel capital d'expérience que vous allez continuer à éclairer les opinions, non seulement africaines, mais mondiales, sur les sujets qui intéressent le monde, comme le climat, les migrations, tous les défis, en fait, qui se posent à l'humanité. Mais aussi d'éclairer le monde sur ce qui se passe aux États-Unis pour que le monde entier puisse également suivre de près, surtout grâce aux différentes langues que vous utilisez. Je pense que cela est une source d'enrichissement. Et je voudrais féliciter la Voix de l'Amérique pour cet anniversaire et le travail que vous faites.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump a annoncé hier soir la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch au 9e siège vacant de la Cour suprême des États-Unis. Le nouveau juge suprême a promis d'être un fidèle serviteur de la Constitution américaine. Salwa Jafari nous en dit plus.
Judge Neil Gorsuch. So was that a surprise? Was it?
Une surprise, c'en est une en tout cas, pour beaucoup. Le suspense avait été savamment entretenu jusqu'à la dernière minute. Magistrat reconnu pour sa rigueur intellectuelle, qui a connu une ascension rapide, Neil Gorsuch, magistrat à la Cour d'appel fédérale de Denver, au Colorado, deviendra, s'il est confirmé par le Sénat, le plus jeune juge nommé à la Cour suprême en un quart de siècle.
It is the role of judges to apply, not alter the work of the people's representatives.
Le rôle des juges est d'appliquer et non de ne pas modifier le travail de représentants du peuple. Un juge qui est satisfait de tous les résultats qu'il atteint est très probablement un mauvais juge.
Ce choix arrime l'institution à droite. Un magistrat conservateur à la Cour suprême était l'une des principales raisons avancées par les électeurs de Donald Trump pour justifier leur choix du milliardaire.
Le président irakien Fouad Massoum a affirmé que le décret anti-immigration du président américain Donald Trump est un choc pour l'Irak, qui figure dans la liste des pays concernés par les restrictions. De son côté, le Vatican se dit préoccupé après les décrets du président américain sur le mur à la frontière mexicaine et l'interdiction d'entrée des ressortissants de 7 pays musulmans. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, se rend à partir d'aujourd'hui en Corée du Sud et au Japon pour rassurer ses 2 alliés clés des États-Unis sur l'engagement de Washington en matière de sécurité. Le secrétaire à la Défense est le premier responsable de l'administration Trump à partir en voyage officiel à l'étranger. Le secrétaire général de l'OTAN déplore ce qu'il considère comme le plus grave regain de violence observé depuis longtemps dans l'est de l'Ukraine. Jens Stoltenberg a ainsi sommé la Russie d'user de son influence auprès des séparatistes pro-russes pour faire taire les armes. Il a de nouveau réclamé le respect du cessez-le-feu par toutes les parties, un retrait de toutes les armes lourdes interdites et un libre accès des observateurs de l'OSCE conformément aux accords de Minsk. Le gouvernement allemand a approuvé un projet de loi facilitant le recours aux bracelets électroniques pour les suspects classés dangereux et liés au terrorisme islamiste international. Cette décision a été prise à la suite de l'attentat de décembre à Berlin. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, un peu plus de 550 personnes classées dangereuses par la police fédérale en raison de leur lien avec le terrorisme islamiste international peuvent être en théorie soumises à cette surveillance via un bracelet GPS attaché à la cheville. L'Union européenne et le Mexique veulent accélérer leurs discussions commerciales pour moderniser leur partenariat économique. Depuis son arrivée au pouvoir fin janvier, Donald Trump semble vouloir mener une politique protectionniste, voire nationaliste, y compris au détriment de ses principaux partenaires dont font partie le Mexique et l'Union européenne. Les dirigeants chypriotes, grecs et turcs ont demandé à l'ONU de préparer pour mars une nouvelle conférence internationale en vue de la réunification de cette île méditerranéenne divisée. Le président chypriote Nikos Anastasiades et le dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci ont formulé cette requête à l'issue d'une rencontre à Nicosie sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU pour Chypre. Je vous rappelle que VOA a 75 ans aujourd'hui et je vous rappelle également notre joie de partager cette journée particulière avec vous. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au journal de la Cannes avec Nicolas Pineau.
Bonsoir à tous, la première demi-finale de la CAN, c'est ce soir 19h temps universel à Libreville entre le Burkina Faso et l'Égypte. Le Burkina pressé d'arriver en finale, c'est ce qu'a déclaré hier le défenseur des étalons Bakary Koné lors de la conférence de presse. Pour Hector Cuper, l'Argentin à la tête de l'Égypte, il faut jouer ce match et ne pas regarder le passé glorieux des pharaons. On retrouve tout de suite sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Dangmaï. Timothée, quelle est l'ambiance sur place?
Oui Nico, c'est la grande explication entre les étalons du Burkina et les pharaons d'Égypte. Les deux équipes sont prêtes pour cette partie. Côté burkinabé, évidemment, on mise sur des éléments comme Bertrand Traoré ou encore le vétéran Aristide Vancé ou encore Pejus Nakulma. Chez les Égyptiens, on a la confiance du gardien, le vétéran de l'équipe El Hadary, et qui aura également avec lui Mohamed Salah. Donc, c'est deux équipes qui sont vraiment déterminées à jouer ce match au meilleur de leur prestation. On s'attend à une affluence au stade pour le moment, et dans la tradition gabonaise, les environs du stade sont encore vides. Mais dès que les hymnes vont commencer à être chantés, on verra appuyer les fans gabonais dans les gradins. Les Burkinabés sont confiants. Ils estiment que l'Égypte a un palmarès, mais qu'eux aussi ont cette fois-ci de nouveaux éléments, de nouveaux atouts à faire valoir. Donc ils sont tout à fait confiants. Et leur coach Paulo Duarte a souligné l'humilité de ce groupe de Burkinabé. Il a dit que c'est un atout dans un match comme celui de l'Égypte. Côté égyptien aussi, on a tenté de minimiser l'importance du palmarès passé de ces titres de l'Égypte. Le coach Hector Cooper a dit que oui, il y a eu sept titres, mais pour le moment, l'équipe actuelle cherche à gagner son propre titre. Donc le passé ne va pas être d'une très très grande utilité. Dans ce match, non, les deux équipes de Nico sont confiantes. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Demain, place à la demi-finale entre le Cameroun et le Ghana. Léger avantage aux Black Stars qui joueront leur sixième demi-finale d'affilée, tandis que les Lions Indomptables n'avaient pas atteint ce niveau de la compétition depuis 2008. Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi demain matin sur VOA Afrique. Et rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et dans Le Monde aujourd'hui, l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
La production du brut tunisien est en pleine dégringolade. Pour pallier cela, le pays s'est doté de nouveaux codes des hydrocarbures pour attirer plus d'investisseurs étrangers et apporter plus de flexibilité. Les autorités tunisiennes en ont fait la priorité depuis quelques mois. Une question qui est devenue d'autant plus urgente que la production du pétrole brut, estimée à environ 80 000 barils par jour en 2010, est tombée à quelque 40 000 barils par jour en 2016. Conséquence, le marché noir séduit davantage, entraînant un manque à gagner pour les distributeurs et l'État, dont les pertes en revenus fiscaux sont estimées à 500 millions de dinars par an. La volaille sud-africaine menacée par le poulet européen. Numéro 1 de la volaille sud-africaine, RCL Food, a annoncé la semaine dernière 1355 licenciements, soit un cinquième de ses effectifs, et mis en vente 15 de ses 25 fermes. Pour les industriels sud-africains de la volaille, le problème viendrait de la concurrence déloyale des importations massives de poulet à bas prix en provenance de l'Union européenne. Cette dernière nie toute responsabilité dans la crise. Mais les Sud-Africains assurent que si rien n'est fait, c'est toute l'industrie, ses 60 000 emplois directs et ses 130 000 emplois indirects qui est menacée.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Deuxième partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les chefs d'État africains ont adopté hier une stratégie appelant à un retrait collectif de la Cour pénale internationale lors d'une réunion à huis clos à la fin du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Pour une analyse, Eric Maniarakiza a joint Gilles Yabi, directeur de Wati, un think tank ouest-africain.
Un certain nombre de pays africains ne sont pas du tout en faveur de ces décisions collectives, en faisant prévaloir d'ailleurs que les pays ont signé individuellement le traité de Rome et donc qu'il n'y avait pas de logique à ce qu'il y ait un retrait collectif alors que l'adhésion avait été individuelle.
Pourtant, ces pays ont souscrit au traité de Rome qui n'a jamais été modifié. Est-ce que les raisons qui sont avancées vous sont-elles légitimes ou légales?
La très grande majorité des dossiers ouverts au niveau de la Cour pénale internationale concerne le continent africain et que les chefs d'État africains sont directement ou ont été directement visés. Et donc il y a la dénonciation, généralement qu'on entend une dénonciation, disons, qui consiste à dire que la Cour pénale ne poursuit pas de manière équitable toutes les personnes responsables des crimes les plus graves et dans d'autres régions du monde où il y a également des situations qui pourraient tout à fait être référées devant la Cour pénale internationale. Je crois que cet argument mérite d'être entendu, mais je pense qu'il mérite d'être dit également, c'est que les victimes de ces crimes les plus importants, lorsque ce sont les dossiers africains, ce sont aussi les victimes africaines. Et cela veut dire au fond que l'objectif qui est celui de la justice et celui de la prévention de la récurrence de crimes graves, cela évidemment va dans le sens de la paix et de la sécurité en Afrique pour empêcher qu'un certain nombre de responsables politiques puissent considérer que tous les moyens sont bons, par exemple dans leur lutte pour le pouvoir. Il ne faut pas rejeter totalement tous ces arguments, il faut les examiner et il faut surtout que le fonctionnement de la Cour pénale internationale, lui, soit réexaminé de manière à ce que tout le monde ait les garanties qu'effectivement la justice internationale est la même pour tous.
Mais quand on respecte les droits de l'homme, on ne peut rien craindre.
Il faut séparer la question de la légitimité et de l'utilité d'avoir une Cour pénale internationale pour examiner des crimes les plus graves. Ce sont d'ailleurs très précisément définis par le traité de Rome. Il faut distinguer cette question du principe, faire avancer l'ensemble de l'humanité, toutes les régions du monde, et la question du fonctionnement concret de la Cour pénale internationale, où je pense qu'il y a des faiblesses très évidentes dans ce fonctionnement, qui sont aussi d'ailleurs en partie liés à des questions de compétences au sein de la Cour. Il y a des dossiers précis où il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises et tout cela ne pouvait pas renforcer la légitimité d'une Cour durant les premières années de son existence. Je pense qu'il faut corriger ces erreurs, mais qu'il faut réaffirmer le principe de l'utilité de cette Cour pénale internationale.
Gilles Yabi, directeur de Wati, un think tank ouest-africain.
Dans Washington Forum, ce jeudi, le grand retour du Maroc dans l'Union africaine. 39 chefs d'État sur 54 se sont prononcés en faveur de ce retour
Qu'en pensez-vous? Le Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Quel défi pour le nouvel homme fort de l'UA? Le décret sur l'immigration de Donald Trump, quelles conséquences pour les pays du continent? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Tchad, les étudiants de l'université éprouvent toujours d'énormes difficultés après le lancement d'une longue grève qui a bloqué l'administration. Notre correspondant André Kodmajingar en a rencontré quelques-uns.
Après 8 mois de débrayage pour revendiquer des meilleures conditions d'études, un compromis a été trouvé avec le gouvernement au début du mois de janvier pour éviter une année blanche. Le gouvernement s'est engagé à payer les 6 mois d'arriéré de bourse et améliorer les conditions d'études dès la reprise des activités académiques. Mais 2 semaines après la reprise des cours, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. Coup de gueule de quelques étudiants.
Ce gouvernement a la forte prétention d'en découdre avec les étudiants. Nous rencontrons davantage de panoplie de problèmes. L'entassement dans les bus comme des esclaves noirs en déportation, le manque d'électricité, l'absence totale de wifi et s'ajoute la suppression de la bourse afin d'envoyer l'étudiant tchadien en enfer.
Le restaurant ne fonctionne plus. Prenons un exemple de certains qui font cours de lundi jusqu'à samedi, ils finissent à 17h. Et 17h, il n'y a pas de restaurant. Qu'est-ce que l'étudiant a fait? On refuse de donner des bourses aux étudiants et on nous refuse les wifi, la restauration, les bus. Finalement, nous sommes dans une situation vraiment compliquée.
Face à la menace des étudiants d'observer une grève sur toute l'étendue du territoire national, une rencontre d'urgence a été tenue ce 1er février entre le bureau de transition de l'Union nationale des étudiants tchadiens et le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Makai Hassan Taïso. Pour le ministre, le gouvernement ne peut faire de miracle face aux revendications des étudiants.
Pour moi, la question de la bourse n'est plus pour le moment discutable. C'est une décision gouvernementale qui a été prise pour des raisons connues. La situation est difficile et elle ne peut pas s'améliorer du jour au lendemain. Notre défi, c'est d'arriver à assurer le transport régulièrement, que la restauration soit régulière. Pour le reste, moi je crois qu'il y a des arriérés qu'on essaiera de payer dès qu'on aura un peu de moyens. Si d'emblée, l'étudiant disent, bon, sans bourse, pas d'études, à ce moment, c'est un choix qui aurait été fait. Le gouvernement prendra acte.
Pour Mortordé Bonheur, vice-président du bureau de transition de l'Union nationale des étudiants tchadiens, le gouvernement est de mauvaise foi et les étudiants vont tirer toutes les conséquences après le 8 février prochain.
C'est juste un acte de bonne foi pour qu'on puisse décanter la situation, ce qui n'est pas le cas de nos partenaires. Nous en sommes déçus. Donc, la grève n'a pas été prorogée, c'est juste une suspension. Il y a les étudiants qui sont en train de composer à l'heure où je vous parle. Donc, on va donner cette chance-là encore à nos camarades de finir la session. Et d'ici le 8, ça, c'est un préavis qui est irrévocable. Quel que soit ce qu'on va nous avancer comme argument, on ne va pas entendre de cette oreille-là.
André Kodmajingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
Procès des leaders anglophones au Cameroun. Ambiance sulfureuse ce matin au tribunal militaire de Yaoundé où l'on a frôlé un affrontement entre les avocats et certains responsables de juridiction. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Julntap, était ce matin au tribunal militaire. Écoutons-le.
Les avocats du barreau du Cameroun hurlent de colère. Nous sommes dans la cour principale du tribunal militaire de Yaoundé. Le greffier en chef près du tribunal vient interrompre brutalement une communication à la presse et aux avocats faite par Maître Tchungang, avocat au barreau du Cameroun.
Mes chers confrères, il y a de cela 30 ans, nous sommes venus ici défendre notre ancien bâtonnier Yondo Black. Aujourd'hui, l'histoire nous interpelle à nouveau pour les mêmes motifs, c'est-à-dire en fait des gens qui ont pensé qu'on pouvait discuter de notre pays. Comme disait le président de la République, il nous a dit qu'on n'a plus besoin d'aller au maquis pour exprimer ses opinions.
Les avocats sortent alors de leur gonds pour protester contre cette violation de leur liberté d'expression. Maître Antoine Mandeng est dans le collège d'avocats qui défend les 3 leaders anglophones interdits.
Nous avons le bâtonnier monté à la suite du bâtonnier Tchungang. On voulait faire une communication aux confrères pour qu'ils ne soient pas démobilisés et découragés. C'est à cet effet que le greffier en chef du tribunal militaire a intervenu, voulant arracher le téléphone par-ci, ça par-là, a ordonné même qu'on ferme le portail afin que nous ne sortions pas. Il ne faudrait pas que ce qui est dit par le chef de l'État soit détourné par par ceux qui ont un démembrement de son pouvoir. Mais nous restons sereins. Ce moment ne nous a pas déstabilisés. Nous allons poursuivre dans le combat.
Un confrère d'une radio internationale est arrêté, son matériel saisi et conduit plus tard au secrétariat d'État à la gendarmerie. Ce matin, une centaine d'avocats a répondu présents au tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont venus soutenir l'un de leurs collègues, Maître Ngonko Akbor Mbala, figure de proue du mouvement de grève qui a paralysé les deux régions anglophones du Cameroun. Après la dissolution par le gouvernement camerounais du consortium de la société civile anglophone, Maître Mbala, docteur Fonkam, enseignant, et l'animateur radio Mantio Bibiti avaient été interpellés. Ils sont poursuivis pour coaction d'actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, entre autres. Ils encourent jusqu'à 20 ans de prison, selon la nouvelle loi camerounaise qui réprimande le terrorisme. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier la nomination de Neil Gorsuch, 49 ans, au 9e siège de la Cour suprême des États-Unis. Sa nomination doit encore être ratifiée par le Sénat. Pour en parler, John Lyndon a joint Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires américaines.
C'est un juge qui a très, très bonne réputation. Il est un grand professeur de droit. Il a fait beaucoup d'années dans la cour d'appel et il est considéré comme un juge conservateur. C'est-à-dire qu'il fait des interprétations de la Constitution. Selon les mots de la Constitution, il ne fait pas de grands changements. Et il est considéré comme un homme de droite, ce que M. Trump a promis.
Quel est le rôle de la Cour suprême aux États-Unis?
La Cour suprême décide les cas de litige selon la Constitution. S'il y a deux opposants qui se disputent quelque chose, c'est-à-dire deux États, des citoyens américains contre un État, c'est la Cour suprême qui décide selon la Constitution. Par exemple, il y a le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage entre homosexuels. Il y a des États qui ont interdit ça, mais il y a des organisations qui sont allées vers la Cour suprême pour dire la Constitution autorise le mariage entre homosexuels. Et la Cour suprême a dit, selon la Constitution, c'est le droit de tout le monde de se marier. Et donc, ils ont approuvé le mariage pour tous. Ils décident des cas selon la Constitution.
Est-ce que vous, qui avez travaillé comme ambassadeur en Afrique, vous pouvez faire une comparaison entre l'importance de la Cour suprême ici aux États-Unis et l'importance qui lui est accordée dans beaucoup de pays africains?
Je ne vois pas une grande différence. Je vois que la Cour suprême, par exemple, j'étais au Sénégal et le gouvernement du Sénégal a décidé d'avoir, dans le divorce entre un homme et sa femme, ils ont décidé que l'homme doit payer de l'argent à la femme, un certain paiement tous les mois, comme nous avons aux États-Unis. Et il y a des hommes qui ont posé objection, et la Cour suprême du Sénégal a décidé que c'est tout à fait conforme avec la Constitution du Sénégal. Donc c'était à peu près la même chose.
Est-ce que vous pensez que Gorsuch sera confirmé?
Oui, mais écoutez, les démocrates, ils sont en minorité dans le Sénat, ils sont très fâchés parce que le prédécesseur du juge Gorsuch est décédé il y a 9 mois. Et président Obama a nommé quelqu'un, mais les républicains au Sénat ont refusé d'avoir un vote. Donc les démocrates cherchent à faire du trouble contre Trump, parce que les républicains étaient méchants. Donc, il y aura des problèmes, mais je crois qu'il va passer.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines et non américaines. C'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Lionel Gaïma, assisté de Nachwan Kale. Merci pour votre attention. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact via Facebook et puis rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à toutes et à tous.
Vous êtes
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.